Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Voir, bienvenue sur Malabar, merci d'être avec moi.
Bonjour Samad, déjà merci beaucoup pour l'invitation.
Alors avant de commencer l'épisode avec toi, on a discuté ensemble du projet de Malabar et tu m'as dit quelque chose d'intéressant, tu m'as dit qu'aujourd'hui il y avait de moins en moins de jeunes qui avaient cet amour pour le pays, donc pour Madagascar. Est-ce que toi t'as toujours cet amour pour ton pays natal?
Effectivement, oui. Si j'avais dit ça, c'est suite peut-être à l'évolution actuelle où beaucoup de jeunes malgaches sont amenés à partir à l'extérieur et ceux qui partent là-bas ne reviennent plus pour apporter quelque chose de nouveau dans leur pays, mais préfèrent rester sur place par rapport à la sécurité, au confort de l'extérieur et ne tentent pas à retourner au pays qu'à leur âge de retraite.
Et toi, tu en as beaucoup dans ton entourage que tu vois partir et tu leur dis, tu t'en discutes avec eux?
Oui, j'ai des membres de la famille qui, la majorité, sont partis pour l'Europe et qui ne reviennent plus qu'après un certain âge, quand ils ont tassé, comment dirais-je ça, quand ils ont assez économisé là-bas, mais qui viennent juste passer les vacances au pays et puis ensuite revenir à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, la sécurité est plus stable et il y a plus d'opportunités là-bas.
Et toi, tu n'as jamais eu envie de partir parce que tu es quand même quelqu'un qui est passionné de tourisme, on en reparlera après, mais tu adores voyager, tu adores découvrir, tu aurais pu aussi, toi, vouloir partir et ne plus revenir. Tu n'as jamais eu cette envie-là?
Si, à un certain moment, j'ai eu cette envie-là. Je suis partie une fois en Europe et j'avais cette envie de rester par rapport à la situation actuelle au pays. Mais après, je me dis que si je partais, mon projet, ce serait un fiasco du côté de mon projet, donc j'ai préféré retourner au pays.
Alors justement, ce projet, c'est ce pourquoi on va discuter ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes à l'audience, donc que tu nous expliques qui tu es en quelques mots et que tu nous parles un peu de l'association, la très belle association que tu as fondée avec tes anciens camarades de classe.
Je suis Foire Assoulsan, tout le monde m'appelle Foire. Et je vis ici à Tananarive. Je suis cofondatrice et présidente d'une association qui se trouve en milieu rural. En parallèle, je travaille dans le secteur du digital et j'effectue de la consultance auprès d'une organisation dans le secteur de l'environnement à Madagascar. Notre association a été fondée en 2016. Mais nous étions beaucoup plus actifs depuis l'année 2020, pendant la période de la pandémie. Je l'ai créé dans l'optique d'atteindre quelques points des objectifs du développement durable, et surtout la préservation de l'environnement, la lutte contre la faim, l'éducation pour tous et la promotion de la femme. L'association se situe à Tiaspanir. Tiaspanir, c'est un endroit qui se trouve dans la région Alamang. C'est un endroit qui regorge beaucoup de potentialités, mais qui n'est pas très valorisé et beaucoup de Malgaches ne connaissent pas vraiment l'endroit. Et avant, la biodiversité était très respectée sur place, mais actuellement, dû au changement climatique qui est vraiment incontournable et à la pollution, l'environnement sur place a été vraiment dégradé ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de feux de proue sur place. Et c'est surtout pour ça qu'on a pris l'association avec quelques locaux. Et c'est dans cette optique-là également qu'on essaie de travailler sur la préservation de cet environnement-là à partir de la lutte contre les feux de brousse et le reboisement.
D'accord, très bien. Donc c'est une très bonne introduction sur l'association. Avant d'entrer dans les détails, voir, j'aimerais juste qu'on contextualise un petit peu dans l'ordre chronologique de ce pourquoi tu as créé l'association, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre aussi le cheminement de la création de l'association. Donc toi, tu étais encore en études, en train de suivre des formations en administration et en gestion. Et tu avais voulu intégrer un département qui avait la mention en tourisme, c'est bien ça, à l'université de Tananarive.
Oui, c'est vraiment ça. Avant, j'avais été dans le département des études françaises et francophones. J'avais suivi le parcours langue culture et management d'entreprise. Et puis par la suite, il y a eu un nouveau département à l'université qui était le département mention sciences du tourisme. Et quand tous mes condisciples aux mentions sciences du tourisme se sont plutôt focalisés dans le tourisme du luxe, dans le tourisme balnéaire et tout ça. Avec quelques copines, nous nous sommes plutôt focalisés sur le secteur du tourisme rural parce qu'on a remarqué que moins de jeunes préféraient ça.
Donc,
Et
quelques copines, c'était que des femmes. Excuse-moi, je te coupe. On note qu'il n'y a que des filles, du coup, dans votre association. En tout cas, à la
non, c'est
création.
pas Non, c'était des copines avec qui enfin, on partageait les mêmes opinions et les mêmes visions. Et on a chacune créé des associations de notre côté, mais on a chacune nos associations respectives, mais qui sont tous dans des milieux ruraux à Madagascar.
D'accord, très bien. D'accord, donc les associations, l'association, en tout cas la tienne, a été créée. Aujourd'hui, donc depuis 2020, tu disais que l'association avait été beaucoup plus active. Parallèlement à cela, il y avait eu la pandémie du coronavirus, qui était la pandémie mondiale, dont tout le monde se souvient. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour que vous soyez plus active alors que l'association existait déjà depuis 4 ans?
Donc l'association à la base, elle a été créée pour promouvoir le tourisme rural à Tiaspanir. Et suite à la pandémie, qui a été un fiasco pour tout le monde, le secteur du tourisme a connu vraiment une chute. Et en 2020, il manquait beaucoup d'eau à Tiaspanir, alors que Tiaspanir, c'est un barrage. C'est le barrage qui alimente la capitale en matière d'eau. Et ça a été un peu le déclic, le fait que même les villages environnant le lac manquaient d'eau. Et il y a eu beaucoup de feux de brousse aussi pendant la période du confinement. Et pendant que tout le monde était confiné à la capitale, j'étais actuellement en pause. Je n'étais pas en activité. Enfin, je ne pouvais pas continuer mes activités professionnelles et c'était pour ça que j'avais décidé de reprendre les activités de l'association, cette fois-ci, pas dans le secteur du tourisme rural, mais vraiment dans le domaine du développement durable pour pouvoir apporter ma petite part de contribution au développement du site à Tiaspanir pour pouvoir lutter contre les feux de brousse avec les autochtones. Et pour pouvoir re reboiser aussi, suite au fait que que les feux de brousse, le changement climatique et tout ça étaient déjà des signes que chaque personne, enfin que chaque individu qui a un peu de conscience devait participer à la conservation de l'environnement. C'était dans ce sens-là.
Et du coup, justement, tu parlais de donner cette conscience. Comment tu as été accueilli par les populations locales quand tu leur as expliqué ton projet et surtout que tu avais aussi besoin d'eux, d'une participation active pour que la ville retrouve en tout cas son boisement initial?
Par rapport aux autochtones, déjà on a, enfin j'ai déjà une très bonne relation avec eux parce que ce sont des personnes avec qui je côtoie depuis toute petite. Et étant donné que le projet est implanté chez eux, c'est obligé que j'entame une relation vraiment. Comment dit-on ça? Vraiment proche d'eux. Et les autochtones ont pris le projet très au sérieux. Le seul hic, c'est que dans la majorité des cas, quand on vient dans un lieu où l'on vient avec un projet, pour la majorité des personnes qui sont porteurs de projets ici à Madagascar, les projets sont déjà préétablis à l'avance, sans avoir consulté l'opinion des personnes qui sont sur le site. Et c'est pour ça que nombreux projets n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Mais dans notre cas, je suis venue avec le projet, j'avais discuté avec la communauté locale, les personnes responsables du village. Sur ce qu'ils attendent. Et puis, ensemble, nous avons effectué des séances d'intelligence collective pour pouvoir en sortir ce qu'on a vraiment besoin et ce qui pourrait nous conduire dans un objectif commun. C'était un peu ça.
D'accord. C'est très intéressant. Donc, tu as quand même beaucoup de soutien dû à la relation humaine aussi que tu apportes. Et une fois arrivé sur place, tu me disais aussi en amont qu'il y avait un autre sujet aussi qui était pour toi important. C'était la promotion des femmes, en tout cas l'accessibilité pour les femmes à l'éducation ou au travail. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
Par rapport à la promotion des femmes, j'avais remarqué quand j'étais sur place que la majorité des femmes sur place ne participaient pas trop aux tâches quotidiennes, n'arrivaient pas enfin, elles n'arrivaient pas à avoir un développement personnel parce qu'elles n'avaient pas d'activité qui pouvait leur aider à effectuer ça. Et c'était dans cette optique-là que j'avais décidé de leur promouvoir en leur faisant passer des formations, en effectuant des partages, en cherchant des projets qui pourraient les amener à avoir des activités au quotidien. Et pour la partie de l'éducation, il y a les écoles sur place qui se trouvent très loin du village, enfin de nos villages pilotes. La majorité se trouve à des dizaines de kilomètres. Et pour dans certaines écoles qui se trouvaient un peu plus proches du village, il manquait d'infrastructures comme la bibliothèque, par exemple. La bibliothèque la plus proche du village se trouve à 15 km à pied. Donc, si un enfant souhaite lire des livres, cet enfant-là est obligé d'effectuer 15 km, enfin aux environs de 15 km en aller et en retour pour pouvoir lire un livre. Et c'est dans ce sens-là que, qu'à part les activités de préservation de l'environnement, Je me suis dit pourquoi pas promouvoir la femme et l'éducation également.
Et donc concrètement, comment tu facilites en fait cette accessibilité pour la femme au travail ou à l'éducation? Est-ce que vous avez, est-ce que via l'association, vous avez créé des écoles, ramené des livres à proximité? Est-ce que vous avez facilité en fait cette accessibilité?
Pour l'instant, nous n'avons pas encore pu démarrer notre projet sur ces deux points-là. Nous nous sommes focalisés juste sur la préservation de l'environnement par le biais du reboisement et de la lutte contre les feux de brousse. Mais le projet par rapport à la femme et à l'éducation, ce sera pour plus tard. Nous comptons effectuer des œuvres sociales, comme par exemple la distribution de fournitures scolaires aux étudiants par le peu que l'on peut. Et en ce qui concerne les femmes, nous avons juste commencé par l'effectuation des formations et leur aider à avoir des activités par le biais de l'apiculture et de la transformation de la transformation d'huile essentielle.
Et concrètement, tu parlais tout à l'heure du don de fournitures scolaires, donc ça peut être des livres, des crayons, des cahiers, etc. Est-ce que vous faites des appels aux dons, vous, directement? Est-ce que c'est des choses que vous donnez vous-même, que vous achetez? Comment ça se passe?
Pour le moment, on n'a pas de partenaire, on n'a pas encore effectué des appels aux dons. On les achète de par nous-mêmes.
D'accord, donc ça peut être quelque chose dont vous aurez besoin si les personnes peuvent ou veulent contribuer en tout cas à cette mission.
Oui, c'est exactement ça. Nous sommes ouverts à toute aide, à toute proposition d'idées, etc.
D'accord, super. C'est important de le mentionner aussi parce que ce podcast est principalement écouté en France et à Madagascar, bien sûr. Donc je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent de l'étranger, quand elles entendent des histoires comme ça, c'est important aussi de savoir que vous êtes dans le besoin, que vous avez besoin que les autres contribuent et on ira beaucoup plus loin ensemble. C'est tout l'idée de Malabar aujourd'hui.
Ah d'accord, ce serait super.
Avant de terminer, j'avais une dernière question, voir. Je voulais savoir concrètement aujourd'hui quels sont les projets que vous avez à court, moyen, long terme pour votre association. Parce que tout à l'heure, tu nous disais que le reboisement était principalement le projet numéro un, que l'éducation et l'accès au travail pour les femmes étaient aussi, en tout cas dans le projet à court terme. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais nous citer pour qu'on visualise un peu votre rétro-planning sur les années à venir?
Donc, pour cette année, notre projet principal, c'est la réussite d'un reboisement d'une dizaine d'hectares en matière d'arbres, enfin, en matière d'agroforesterie, pour que la population ait plusieurs, enfin, pour que ça puisse donner plus d'opportunités à la population. Nous avons un projet d'apiculture également. Mais nous attendons encore qu'on puisse avoir des moyens pour pouvoir se payer plusieurs nids d'abeilles et plusieurs ruches, pardon. Et ensuite, en ce qui concerne l'éducation pour les enfants, nous comptons instaurer une bibliothèque au village d'Angoudougoud. C'est notre village pilote qui se trouve à juste 4 km de Tiaspanir. Et nous comptons effectuer une demande de dons en matière de livres et de fournitures scolaires également d'ici la fin d'année. Et à l'avenir, nous comptons soutenir plusieurs points les objectifs du développement durable par tous les moyens pour pouvoir déjà avoir un Tsaspanir plus vert à l'avenir et pour que la population sur place puisse se développer parce que nous pensons que bon, travailler sur l'île tout entière, c'est intéressant. Mais choisir un site, enfin, si chaque chaîne, pas forcément malgache, mais si chaque chaîne projette le fait d'apporter chacun une petite, enfin, de choisir un lieu plus spécifique et d'apporter sa petite part de contribution pour faire développer ce lieu-là, je pense que Madagascar pourrait se développer. Plus rapidement.
Tout à fait. De toute façon, l'idée, c'est que tous les jeunes et les moins jeunes aussi s'associent tous ensemble. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il faut qu'on contribue tous et qu'on se soutienne. Mais je pense que c'est sur la bonne voie. En tout cas, merci. Merci pour ce partage pour les projets à venir, voir. Avant de terminer, j'avais quelques questions pour toi. C'est des questions que je pose à tous mes invités sur Malabar pour avoir un peu ton regard sur le pays. C'est des questions un peu personnelles. Est-ce que tu es prête?
D'accord.
Est-ce que tu peux me dire quel est ton lieu préféré à Madagascar?
Mon lieu préféré à Madagascar, c'est Tsaspanir.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas qui fait que vraiment tu t'y sentes bien?
Déjà, je suis native de Tsaspanir. Tsaspanir et ses environs s'affirment comme étant des perles rares de Madagascar. C'est un endroit qui n'est pas très connu de beaucoup de gens, mais c'est un endroit qui est prometteur.
D'accord, super. Ton plat malgache préféré?
Mon plat malgache préféré, c'est le tilapia. C'est les Oui.
Yarakamfar. Ok. Est-ce que tu as un mot, une expression que tu dis souvent ou qui pour toi reflète bien Madagascar, qui décrit bien Madagascar?
Un mot qui décrit bien Madagascar, je dirais le siafanan.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Je sais ce que c'est, mais juste pour expliquer.
Donc, le Siavanan, c'est. Comment expliquer ça déjà?
Fiavanan, c'est quand tu aides.
Quand tu apportes un peu d'humanité autour de toi, c'est pas vraiment ça, mais c'est à peu près ça. Par exemple, quand tu pars à l'extérieur, tu ne sens pas trop ce côté du Fiavana-là, parce qu'à l'extérieur, il y a le fait que chacun soit pour soi.
Oui, il y a de l'individualisme. Alors que le Fiavanan, c'est vraiment l'aide, l'entraide, en fait, la solidarité qu'il y a.
Oui, c'est vraiment la solidarité qu'il y a entre Malgaches. Pas forcément entre Malgaches, mais avec les étrangers aussi. Et pas forcément en famille, mais entre amis ou entre de simples inconnus.
Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. À deux, on a bien défini, je pense, le Fiavan. On verra si les Raimandjens ou d'autres personnes auront des commentaires à ajouter.
C'est pas trop une définition nulle.
Non, je ne pense pas. Pour terminer, est-ce que tu as un message que tu aimerais adresser aux auditeurs de Malabar?
Un message que j'aimerais adresser aux auditeurs de Malabar. Donc, c'est un projet qui est très très inspirant. Déjà, c'est une très très belle initiative d'avoir pensé à valoriser le pays à travers le podcast. Et je vous souhaite un très bel avenir et beaucoup de succès dans vos futurs projets.
Merci beaucoup, Voir. Et en tout cas, on notera aussi que tu as un très très beau projet toi aussi. Donc, on te souhaite beaucoup de réussite et puis on se tient au courant pour la suite des événements.
D'accord, merci Samadj.
Merci, Voir. À bientôt.
À bientôt.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Sambach Rapefarnouch. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, velum!